lecteurs, amis lectrices, auditeurs et auditrices, bonjour en ce mercredi 29 avril 2020. Il est donc 18h30, légèrement passé, c'est l'heure du 7e Facebook Live Exilium. Merci d'être passé, ça me fait plaisir de voir les fidèles prêts pour ce rendez-vous lecture. Alors hier, je vous ai laissé un petit peu sur votre faim en coupant en deux sur le chapitre 5. Chapitre 5 coupé, ben, en fait en pleine action. Alors aujourd'hui, on va éviter le blabla, on va passer directement à la lecture. Je vais bien entendu, avant d'y passer, vous faire un résumé de la lecture précédente pour vous remettre dans le bain. Et également, lorsque la lecture va commencer, je ferai un petit flashback de quelques paragraphes pour vous remettre encore mieux dans le bain et dans l'ambiance. Alors on ferme les yeux, on ouvre ses oreilles, ou vous faites l'inverse, vous faites ce que vous voulez, enfin... Ne fermez pas vos oreilles quand même, ce serait dommage. Installez-vous confortablement, je mets mes lunettes. Et c'est parti pour la lecture avec au départ le résumé de la lecture précédente. Frédéric retourne au lycée le mercredi soir pour la deuxième soirée de la semaine. Il arrive un peu plus tôt afin de tenir sa promesse faite aux jeunes internes, les emmener faire un tour dans le dortoir des filles pour s'assurer qu'aucun fantôme ne s'y balade. Alors que les élèves sont tous au foyer, la visite n'a pas commencé qu'à nouveau, un bruit sourd se fait entendre au niveau du dortoir des garçons. La coupure brutale de courant ajoute à l'angoisse de la situation. Cette fois-ci, le bruit se déplace rapidement. Quelque chose a vraiment infiltré le dortoir. Le bruit n'a rien à voir avec des canalisations fatiguées par le froid. Frédéric court à l'étage, mais ne voit rien dans le couloir. Kevin, embué par sa fièvre, n'a aucune idée des événements qui sont en train de se dérouler. Depuis le foyer, Sylvien parvient malgré tout à localiser la dernière position de l'intrus et tend l'oreille. Ce qui se balade au-dessus souffle et respire apparemment comme un animal. Seconde partie du chapitre 5. J'avais demandé aux internes de ne pas bouger, et ils n'avaient pas bougé. Ils étaient trop paniqués pour cela, mais je les tranquillisais, ou du moins j'essayais. « Les gars, rassurez-vous, il n'y a rien à l'étage, à part Kevin qui pionce comme un loir. Le bâtiment est vieux, il craque de partout, on se fait que des idées avec nos fantômes. Alors, on va arrêter de nous faire peur, et vous, surtout vous, vous allez arrêter de vous faire peur. Et j'annule la visite du dortoir des filles, je pense que ce sera pas bon pour votre nuit sinon. » « Mais tu crois que c'est vraiment le bâtiment qui craque ?» demanda Jimmy. « Écoute, Jimmy, on n'a jamais entendu ce bruit et il n'a paru qu'avec le froid. Donc pour moi, c'est le bâtiment qui craque, à cause du froid. C'est logique, non ?»«
Ouais, bah, moi j'en suis pas si certain, » annonça Sylvain. « Comment ça, Sylvain, qu'est-ce que tu veux dire ?»
Nous regardâmes tous Sylvain s'éloigner de notre petit groupe, pour se déplacer sous l'emplacement présumé de la dernière détonation, au fond du foyer. Nous étions silencieux, curieux. Mais qu'avait-il remarqué ?
Sylvain, tu peux me dire ce qui se passe ?
Gouverné par l'imprudent besoin d'obtenir une explication logique à tout ce vacarme, Sylvain scruta de nouveau le plafond que l'absence de luminosité tendait à faire disparaître.
Ce truc, les mecs, ce truc, ou cette chose, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est pas des tuyaux. Parce que je l'entends respirer.
Comment ça, Sylvain, tu l'entends respirer? C'est quoi ce bordel? Les autres internes se regardèrent l'un l'autre, atterrés, puis se rapprochèrent un peu plus de moi.
Ouais, j'ai de bonnes oreilles, les mecs. Je vous assure que c'est pas un tuyau. Il y a un truc qui souffle ou qui respire juste au-dessus de nous.
Merde, mais j'en viens du dortoir. Comment un animal est rentré là-dedans? J'ai rien vu du tout. Qu'est-ce que tu nous racontes?
Sans bruit, Sylvain s'immobilisa au fond du foyer, près de l'entrée de la salle de musique. Il fixa le plafond un instant, comme pour viser l'endroit à explorer, puis pivota la tête de façon à diriger son oreille droite vers la source du souffle. Dans un silence total, les autres internes et moi l'observions, dans l'attente qu'il nous apporte des informations supplémentaire. Sylvain nous fit signe de la main de ne faire aucun bruit. Jimmy et Quentin étaient terrifiés. Leur visage était blême. Samy et Étienne suivaient les opérations avec plus de sang-froid, mais n'étaient pas pour autant rassurés. Le chuintement du vent ne parvenait pas à distraire Sylvain de son écoute attentive. L'inspection de Sylvain ne dura pas. La chose ou ce qu'il y a là-dessus, j'en sais rien. C'est pas un foutu tuyau, moi je vous dis, un foutu truc qui est noyé dans du béton armé. La chose qui était au-dessus de nous n'était jamais partie. Elle était toujours au-dessus. Cette chose bondit sur place pour retomber avec ce même bruit sourd qui résonna dans le foyer vide. Saisi par la proximité du choc, Sylvain lâcha un cri de surprise. Samy, Quentin et Jimmy hurlèrent par réflexe. Puis, comme repoussé par une force invisible, Sylvain perdit l'équilibre et bascula en arrière pour se retrouver le derrière sur le sol après avoir cogné la tête contre le radiateur. Il conserva ses yeux grands ouverts en direction du plafond, comme si la chose allait traverser le mur pour lui tomber dessus. Les gamins étaient terrifiés. Je me précipitai vers le plus intrépide des internes. « Sylvain, Sylvain, comment ça va ?»« Putain, ça va, mais j'ai une bosse et le cœur qui bat à fond, là !» Puis la chose ne nous accorda aucun répit. Sylvain n'eut pas le temps de se relever, que cette chose se mit de nouveau à sauter pour se retrouver au milieu du couloir. La pénombre dans laquelle nous étions tous noyés amplifiait le sentiment de panique. Au-dessus de nous, les mouvements de la chose s'intensifièrent. Elle effectua plusieurs allers-retours en une poignée de secondes, chaque fois en deux simples sauts pour parcourir toute la longueur du couloir. Comme lors d'un tournoi de tennis, nos têtes tournaient de droite à gauche et de gauche à droite pour suivre du regard la position estimée de la chose. « Fred, Fred, je veux me barrer !» lâcha de nouveau Étienne. « T'es plus en sécurité que nous. Dehors, Sylvain te l'a déjà dit. » Les trois plus jeunes internes se réfugièrent derrière un fauteuil qu'ils glissèrent jusque dans un coin de la pièce, près de la vision, de la télévision, tout en gardant un œil dehors. Sylvain se releva pour nous rejoindre, Étienne et moi. « Bon, on reste là, on attend que ça se passe, » imposai-je aux deux plus grands. « Samy, Quentin, Jimmy, vous restez derrière votre fauteuil et vous ne bougez pas !» Puis la chose s'arrêta de jouer et s'immobilisa au fond du couloir. Mais où était-elle vraiment ? Sylvain ne s'aventura pas à y retourner, encore bousculé par sa première expédition. À nouveau, le silence s'installa, que seules les bourrasques extérieures venaient troubler. Puis, ce ne fut plus du tout au même bruit auquel nous eûmes droit, mais plutôt une sorte de déchirure, comme quand un animal se fait les griffes sur un tronc d'arbre. 9 coups, ou 9 déchirures, je ne sais pas. Je les comptais un à un. 9 coups furent portés contre le mur, ou peut-être contre le sol. L'opération dura moins de 10 secondes. D'un bond, la chose franchit à nouveau toute la longueur du couloir pour revenir là où nous l'entendîmes pour la première fois, au-dessus du baby-foot, ou pas loin. Les néons crépitèrent de nouveau. À notre grand soulagement, la lumière réapparut. La chose, ou l'animal, parut s'immobiliser, ou disparaître sitôt le retour de l'éclairage. Je voulus profiter de ce retour à la normale, ou presque normale, pour inspecter le dortoir dans de meilleures conditions. De derrière leur fauteuil, les trois jeunes m'implorèrent de rester encore un peu. Je les rassurai comme je pus. C'était juste une coupure générale, les gars. Peut-être un délestage, j'en sais rien. Rien de grave. Vous voyez, la lumière est revenue. Nous gardâmes alors nos positions, dans l'attente d'une éventuelle nouvelle manifestation du phénomène. 3 longues minutes s'écoulèrent avant que Sylvain nous confirme l'absence de tout nouveau bruit suspect. La chose s'était volatilisée après avoir emprunté je ne sais quelle porte dérobée. Nous nous assîmes plusieurs minutes sur les fauteuils du coin télévision, sans mot dire, les oreilles toujours attentives au moindre son suspect. Nous venions d'être les témoins d'un phénomène sans nom et sans explication rationnelle. Voilà, c'était le mot. Sans explication rationnelle. Tout au plus avait-on remarqué que la présence de cette chose avait été tributaire du manque d'éclairage. Est-ce que cette chose était sensible à la lumière ? Nous ne savions pas. Ah, puis, que j'arrête de parler de choses comme si j'étais en face d'un monstre. Si ça se trouve, c'était juste un animal ou je ne sais pas. Bref,
Il était désormais inutile d'amorcer la visite du dortoir des filles. Nos fantômes, si c'en était, semblaient bien plus impressionnants que les fantômes des filles. Je bondis de mon fauteuil. Merde, j'allais oublier Kevin. Putain, faudra pas qu'il me dise qu'il a rien entendu cette fois. Jimmy, toujours sous le choc, m'implora. Eh, tu reviens tout de suite, hein, Fred, d'accord? Oui, Jimmy. Je fais une fois de plus l'aller-retour, presque aussi vite que la bestiole. Je fus pris d'un léger malaise, accompagné d'une crampe nerveuse à l'estomac. Comment avais-je pu ne rien voir bouger dans le dortoir alors que ça faisait un bruit pas possible dès que ça se déplaçait? Tout ça n'avait strictement aucun sens. Je montai les marches deux par deux. Arrivé près du lit de Kevin, je remarquai que son duvet était plat. Je m'approchai. Personne à l'intérieur. La chose l'avait peut-être avalé. Telle fut ma première et ridicule pensée. Sur le retour, à peine eus-je franchi le seuil de sa chambre, que je vis l'élève, pieds nus et en caleçon, qui sortait des sanitaires. Je fus à la fois soulagé et en colère. Kevin, merde, avec ce que tu trimbales comme crève, tu te promènes dans cette tenue comme si t'allais à la plage? Tu vas me faire le plaisir de mettre tes chaussons et un t-shirt à chaque fois que tu vas aux chiottes. Et c'est pas une option! Mais mes chaussons puent, riposta Kevin, la gorge toujours enrouée. Comment ça, ils puent? Mais ils sont vieux! Eh ben, t'iras t'acheter une nouvelle paire ce week-end! De toute façon, il vaut mieux des pieds qui puent qu'un coup de froid par-dessus un coup de froid. Merde alors, mais t'es vraiment pas raisonnable! Et après, tu viendras te plaindre que t'as mal au crâne! Je laissai le pauliste réintégrer son lit avant de commencer mon interrogatoire. Bon, Kevin, quand je suis passé tout à l'heure, tu ne dormais pas. Je suis ensuite resté une quinzaine de minutes en bas avec les mecs. Donc tu as forcément entendu tout ce boucan dans le couloir. Kevin ne répondit pas. Kevin ? Une petite voix chuinta du fond du duvet. Fred, je crois que le virus est en train de mourir. Je sens la fièvre qui monte. Tu penses que ça va durer toute la nuit? Écoute, non, pas forcément. Enfin, sauf si tu persistes à l'épicer pieds nus. Un rhume, ça dure une semaine, à tout casser. C'est la dernière ligne droite. Après, si ça se trouve, demain ou après-demain, tu seras debout. Continue à prendre tes médocs pour t'aider à supporter tout ça. Il y a quelques mois, j'ai aussi dû endurer un bel accès de fièvre en raison d'une surinfection bronchique, qui m'avait dit le médecin. Aujourd'hui, c'est fini, j'y pense même plus. Ouais, mais pour moi, c'est différent. Mais tu comprendras plus tard. Ouais. Plusieurs m'ont promis que je comprendrais beaucoup de choses plus tard. Bon, en attendant, continue à te reposer jusqu'à ce qu'on te porte ton plateau repas. Et pense à boire aussi. Sinon, tu vas te lyophiliser sous ce duvet. Je m'assurai que Kevin conservait une bouteille remplie près de son oreiller. Puis un détail vestimentaire m'intrigua. Kevin, ils sont à toi les vêtements posés sur le lit du dessous?
Ouais.
Mais qu'est-ce que tu as fait à ton t-shirt pour qu'il se retrouve dans cet état? Vous avez joué avec ou quoi? Kevin pivota puis adopta une position confortable pour entamer une nouvelle tranche de sommeil. Je décidai de le laisser tranquille, sans attendre de réponse. Sur le départ, je ressentis un léger frisson dans le dos, que j'assignai un courant d'air. J'opérai un détour dans les sanitaires, mais toutes les fenêtres étaient bien fermées pourtant. J'allais vérifier une nouvelle fois les chambres, pourtant contrôlées moins de 30 minutes plus tôt, mais rien à signaler. Puis vint l'examen de la fenêtre du sas du fond. Elle était entr'ouverte. Je m'assurai deux fois plutôt qu'une de bien la verrouiller cette fois-ci et me promis de tirer les oreilles au coupable. Et ce coupable, ce n'était certainement pas moi. Une fois redescendu au foyer, je vis les élèves reprendre assurance et sortir de leur torpeur. La vie recommençait et l'internat retrouvait ses règles. Les gars, j'ai encore dû fermer la fenêtre à côté de la salle info. Qui est-ce qui s'amuse à l'ouvrir à chaque fois? Le chauffage, c'est pas pour dehors.
Bah, c'est pas nous, grommela Étienne. On n'est pas assez fous pour ouvrir les fenêtres avec ce temps.
Jimmy, Quentin, Samy, c'est vous qui l'avez ouverte?
Bah, Fred, on n'a pas bougé tout l'après-midi, argumenta Samy.
Guilhem débarqua au foyer, son porte-document sous le bras et le bonnet saupoudré de flocons. Les autres internes s'empressèrent de le tenir au courant sur la chose qui hantait désormais le dortoir, mais Guilhem parut s'y intéresser à moitié. Il s'engagea dans l'escalier pour rejoindre sa chambre, avant même que ses camarades ne finissent de raconter leur histoire. Je le stoppai net dans son élan. « Guilhem, tu vas où comme ça? Attends au moins qu'il termine de tout te raconter. C'est pas banal ce qu'on a vécu. En plus, je te rappelle que t'es censé être mon gardien et tu n'étais même pas là quand j'avais besoin de toi. » Guilhem sourit et prit sa propre défense.
« Tu sais, Fred, un bon gardien sait où est le danger et n'intervient que lorsqu'il y en a. Il ne prive pas celui qu'il protège de sa liberté. Il sait se faire discret. »
Puis Guilhem disparut dans le couloir, comme happé par l'obscurité, suivi par les trois plus jeunes internes, pressés de réintégrer leur chambre. La réponse de Guilhem me surprit. Il prenait à mon avis son rôle de gardien avec un sérieux inquiétant. Je restais d'autant plus perplexe que ses propos tenaient la route en fait, et il témoignait d'une certaine sagesse à laquelle il ne m'avait pas encore habitué. Étienne, râleur fini, chercha à comprendre.
« Mais c'est quoi cette grosse connerie de gardien ?»«
Bah, c'est juste une sorte de jeu commencé hier matin en vie scolaire. Je ne sais même plus comment c'est parti. Je me souviens l'avoir embauché, ou plutôt c'est lui qui s'est embauché tout seul, embauché comme gardien jusqu'à vendredi après-midi. » Mais cherche rien, y a rien à comprendre, c'est un délire à lui.
Mais c'est complètement débile!
Je le regardais, pensif. Peut-être qu'il a besoin de se sentir utile en ce moment. J'imagine que c'est sa façon à lui de décompresser. Je ne le connais pas trop en fait, hein. Je ne sais pas ce qu'il vit et même ce qu'il a dans la tête. Ce n'est peut-être pas si débile que ça finalement. Enfin, de toute façon, depuis hier, tout ce qui se passe ici est débile et ça me gonfle grave. Alors, un peu plus ou un peu moins, ça se dilue dans la quantité. Ça me fait chier et merde et chiottes.
Oh putain, le Fred qui s'énerve, les mecs.
Étienne ne put finir sa phrase. Samy, essoufflé, déboula les escaliers avec fracas.
Fred, faut que tu montes tout de suite, il y a un truc bizarre là-haut.
Au fond du couloir, le petit groupe de gamins observait quelque chose sur les planches du bardage, près de la porte de ma chambre. Je m'approchai. Qui est-ce qui a fait ça? C'est la chose, analysa Sylvain, convaincu. Trois motifs étaient gravés à même le bois. Les dimensions et la profondeur des entailles attestaient de la volonté de leur auteur à signer son passage, comme un tag sur un mur. Sylvain se lança dans les explications. « Ces sortes de griffures qu'on a entendues au fond du couloir, je suis sûr que ça venait de là. »«
N'importe quoi, Sylvain. Comment tu peux savoir ça? T'es complètement débile. »«
Écoute, Étienne, arrête d'être si dur avec tes camarades et puis parle autrement, s'il te plaît. » »« Je pense que Sylvain a raison. Machinalement, j'ai compté les coups au fur et à mesure et il y en a bien eu 9. Et regarde ces trois signes. Ils sont constitués de 9 encoches aussi. » Je passai mes doigts par-dessus chacune des encoches. Il n'y avait aucun copeau à terre. Le bois avait été comme enfoncé, compressé et non pas écorché. Les entailles n'étaient pas régulières, mais la propreté du travail demeurait remarquable. Ce qui m'inquiète, les gars, c'est ce que je crois déchiffrer. Vous lisez quoi, vous?
Moi, je lis ABC, révéla sans délai Guilhem qui venait de nous rejoindre pour s'imprégner un peu plus des événements qu'il avait manqués.
Moi, pareil, confirmèrent les autres.
Samy resta perplexe.
Ouais, on voit bien que c'est écrit ABC, ça fait comme 3 lettres, mais ça veut dire quoi?
Bah, les gars, réfléchissez un peu, ça vous choque pas?
Bah, et pourquoi ça devrait? Demanda Samy.
Bah, bon sang, mais secouez-vous la pulpe un peu! Si c'est vraiment ce truc, cette chose, ta image, j'en sais rien, qui a fait ça avec ses griffes ou ses dents. Et si c'est bien ABC qui est gravé, mais ça veut dire que cette chose sait lire et écrire, tout simplement. Et si j'en juge par la profondeur des encoches, à mon avis, on a affaire à une bestiole avec une force colossale, ou alors une sacrée bricoleuse. Dans un cas comme dans l'autre, on n'est pas sorti de l'auberge.
Ça veut dire quoi, sorti de l'auberge? S'amusa Quentin.
En gros, ça veut dire qu'on est dans la merde, mais sans le gros mot. Le petit groupe exprima sa consternation dans un brouhaha de commentaires.
Ouais, bah moi, je veux pas dormir là ce soir, hein. Moi, je vais appeler mes parents, hein. Tempéta Jimmy avec de grands gestes. Abruti! Tensa Samy. Tes parents sont sous 20 mètres de neige. Personne ne viendra te chercher, sinon on serait déjà chez nous.
Bah, abruti toi-même! T'as envie de rester là, attendre que la chose se refasse la face?
Eh ben, on a qu'à donner à Quentin en sacrifice à la chose.
Mais arrêtez avec vos idées de paysan! T'as qu'à t'y mettre, toi, en sacrifice! T'es plus gros que moi! T'as y a plus à bouffer!
Guilhem, le seul avec Kevin à ne pas avoir été témoin des événements, restait impassible et souriait.
J'ai eu l'impression qu'il croyait que toute cette mise en scène venait de Monfay, pour faire peur aux internes. Je ne cherchais même pas à le convaincre du contraire. Mais un détail m'intriguait. Les gars, pendant que vous vous disputez à savoir qui sera sacrifié, je vais faire un tour rapide dehors, je veux vérifier quelque chose. Restez ici ensemble. La chose, comme on avait tous fini par l'appeler, à défaut de savoir à quel animal perdu ou visiteur on avait affaire, n'était plus dans le dortoir, ça c'était certain. Elle n'avait cependant pu bénéficier que d'une seule issue. La fenêtre ouverte près de la salle informatique. Car c'était la seule que j'avais dû refermer. Dans sa fuite, je m'attendis à ce que la chose ait laissé des traces dans la neige. Je jetai d'abord un œil vers l'extérieur, depuis cette fenêtre que je ouvris pour l'occasion. « Tu regardes quoi, Fred ?»« Très cher inspecteur Sylvain, je cherche des traces de pas ou un truc dans le genre, mais je ne vois pas grand-chose. Alors je descends, vous restez là. » Je filai par l'issue de secours, passage interdit aux élèves en temps normal, et me retrouvai au rez-de-chaussée en quelques secondes, à l'endroit même où la tête de Sylvain avait embrassé le radiateur. J'activai tous les éclairages du foyer pour obtenir un maximum de visibilité sur les abords extérieurs. Je m'assurai aussi avoir les clés dans la poche, puis commençai le tour du bâtiment. Bien que la neige, chahutée avec violence par le vent, rendait pénible l'exploration et réduisait le champ de vision, le sol était de toute évidence immaculé. J'activai alors la lampe LED disponible sur mon smartphone pour repousser de quelques mètres les limites de mon horizon.
« Ça va, Fred ?»
poussa une petite voix depuis le premier étage.
« Je te vois à peine, en dessous !»«
Ouais, Sylvain, c'est bon. Je vois pas grand-chose non plus, mais je vais faire le tour du bâtiment. Tu m'entends bien ?»«
Ouais, c'est bon, enfin 3 sur 5. »«
Alors ferme la fenêtre, je reviens dans pas longtemps. »
Je respirai un grand coup pour me donner du courage, puis commençai le contournement du bâtiment d'internat par la droite. Je longeai le premier mur, sans me presser. En alerte maximum. Ça y est, 8 mètres. Je fêtais en silence ma victoire, mais il me restait 20 fois plus à parcourir. Je glissais devant les baies vitrées du foyer pour me retrouver sous le porche de l'entrée principale de l'internat. J'hésitais avant de poursuivre le grand tour et me demandais si mon idée première était si lumineuse que ça. Le reste du bâtiment était plongé dans l'obscurité la plus totale. Je ne pouvais plus bénéficier de l'éclairage du foyer ou des fenêtres du dortoir garçon. Je dus donc faire confiance à la lampe intégrée au smartphone. Et faire confiance aussi à mon sang-froid. Je ne vis aucune trace au sol. De temps à autre, je balayais aussi loin que je pouvais avec mon minable éclairage, mais je ne trouvais rien qui pouvait accréditer la fuite de la chose. Il me fallut peu de temps pour longer le côté opposé du bâtiment. J'avais dû parcourir 80 mètres, et la profonde obscurité dans laquelle j'étais plongé m'encouragea à accélérer le pas. Palper le mur que je frôlais du dos était ma seule assurance. Derrière l'internat, je reconnus le bâtiment modulaire, une construction rapide qui accueillait deux salles de classe. Je sus alors que j'avais accompli plus de la moitié du chemin. La prudence, ou je dirais plutôt la peur, me stimula pour accélérer le pas. Puis la douce lumière du foyer me rassura. J'étais bientôt arrivé. Je ralentis alors la cadence pour mieux me concentrer sur le manteau neigeux, toujours aussi vierge, puis me retrouver à mon point de départ, soulagé. Rien autour du bâtiment ne témoignait d'une présence étrangère qui aurait approché l'internat, pas même une trace de patte d'écureuil. Je ne fus pas rassuré pour autant. Car cela signifiait que cette chose volait ou s'était agrippée au mur. Peut-être un gros corbeau finalement. Ou alors elle attendait dans le dortoir, assistée d'une prodigieuse mais préoccupante faculté de camouflage. Je gravis en toute hâte l'escalier par lequel j'étais descendu. Le petit groupe était toujours là, à discuter de choses et d'autres. Sauf Guilhem, insouciant, déjà dans sa chambre. Un gardien à l'initiative, au courage douteux, pensais-je, jusqu'à ce que je me ressaisisse. Ce n'était qu'un jeu. J'étais le seul à porter la responsabilité des gamins ici. Il n'y avait pas de gardien, pas plus de fantômes. Il y avait juste moi et cet interne, dont un immobilisé dans son lit. Et bien sûr, c'est un truc qui nous pourrissait la vie. Sylvain fut le premier à aller à ma rencontre. Alors, t'as vu quelque chose, Fred ?
Que dalle. J'ai peut-être loupé quelque chose par contre, mais partout où je regardais, le sol était désespérément plat. Je n'aperçus aucune trace de pas.
Je demandai au petit comité de me suivre jusqu'à la chambre de Guilhem pour ne pas avoir à répéter deux fois la même chose. Je décidai, au moins pour ce soir, de modifier le règlement de l'internat. Bon, écoutez-moi tous les six. Ce soir, pas de foyer, pas de télé, rien. Après le repas, on ne s'attarde pas et on revient directement ici. Je fermerai derrière vous. On éteindra assez tôt et vous resterez dans vos chambres. Si vous souhaitez dormir dans une même chambre, proche de la mienne pour vous rassurer, pas de souci, c'est accordé tant que vous remettez tout en ordre juste après. Je demanderai aussi à Kevin ce qu'il veut faire. Quoi que ce soit qui est dehors, ça doit le rester. Alors bon sang, je vous demande une dernière fois de vérifier une à une vos fenêtres. J'en ai encore trouvé une ouverte ce soir malgré ce froid de canard. Si une fenêtre ferme mal, ne bricolez rien. Vous venez me voir sur le champ et c'est moi qui la fermerai. Est-ce que tout le monde a bien compris ?
Approbation générale.
Bien, on a une grosse heure avant le repas. Alors prenez votre douche tout de suite. Je veux qu'on se disperse le moins possible.
Je peux prendre ma douche demain matin ? Demanda Samy.
J'ai dit que je ne voulais pas qu'on se disperse. Alors dès qu'on aura fini cette petite mise au point, vous filerez tous sous la douche. Il y en a six, ça tombe très bien, vous êtes six.
De mon côté, j'essaye de contacter le proviseur. Si on a un animal dangereux en liberté dans la nature, il faut qu'il avertisse les services vétérinaires. J'ai pas envie qu'on ait plus de soucis que ça.
Guilhem ne parut pas vraiment convaincu par mes hypothèses.
Et tu crois qu'ils feront quoi s'ils trouvent un animal ?
Écoute, Guilhem, j'en sais rien. Ils l'attraqueront, ils vont la redonner à son propriétaire, ou ils la remettront dans la forêt, ou ils feront un civet aux champignons, j'en sais rien. C'est leur boulot, ils aviseront. Si on est toujours vivant, c'est que cette bestiole ne doit pas être si hostile que ça. Du moins, j'espère.
Sylvain se lança dans une autre explication.
Et si jamais c'était une blague ? Des élèves extérieurs qui savent qu'on est coincé dans le dortoir et qui chercheraient à nous faire peur.
C'est pas couillon, Sylvain, je l'ai envisagé un moment en fait. Enfin, c'est même la première chose à laquelle j'ai pensé, pour tout te dire. Mais ils auraient marqué la neige avec leurs pas. Il est impossible d'accéder au bâtiment sans laisser des traces. Et ils auraient fait comment pour grimper au premier étage ? Et comment est-ce qu'ils auraient pu provoquer un tel raffut et graver des encoches aussi profondes avec une telle efficacité ? J'ai passé en revue plein d'explications et il n'y en a aucune qui tient la route. À part un animal sauvage savant, c'est dire les solutions que j'ai.
Y a quoi comme gros animal qui grimpe au mur ? Demanda Quentin.
À Saint-Amand-Moron, je n'en sais rien. Bon les gars, je vous laisse, je dois téléphoner au proviseur. Allez hop, tous sous la douche et sans bruit pour ne pas déranger Quentin, il vous remerciera plus tard.
Je fermai en partie la porte de ma chambre, histoire d'être tranquille pour téléphoner. Je pris enfin le temps de poser mon manteau et ma chèche, puis me réserver quelques instants de répit. Assis sur mon lit. Enfin, je m'installai devant le bureau d'appoint et composai le numéro interne du proviseur. Personne ne décrocha. J'insistai. Lorsque la tonalité d'occupation reprenait le relais, je raccrochai, puis recomposai le numéro encore et encore. Je répétai l'opération une bonne demi-douzaine de fois. Le proviseur était parti. Mais où pouvait-il bien aller par ce temps, bon sang ? Je ne pouvais appeler personne d'autre en interne et ne détenais aucun numéro personnel de la hiérarchie ou de quiconque qui aurait pu éclairer ma lanterne. Quant à la fluidité du réseau mobile, la tempête avait eu raison d'elle. La nature restait plus forte que la technologie. Le prochain appel au proviseur attendrait maintenant après le repas. J'avais une heure devant moi. Je décidai de fermer les yeux et m'allonger sur le lit pour goûter au repos du guerrier. Fin de la lecture pour ce soir et par la même occasion, fin du chapitre 5.
Voilà les jeunes, jeunes et moins jeunes, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, les replays sont tous disponibles sur la page Exilium. Le replay de ce soir sera disponible d'ici une dizaine de minutes, grosso modo, le temps que je le mette à jour. On se retrouve maintenant, demain, idem, demain jeudi, à 18h30 pour la suite d'Exilium.
où le mystère va probablement s'épaissir. Je jette un petit coup d'œil à vos messages avant. Alors j'ai déjà fait un coucou tout à l'heure à ceux qui étaient arrivés avant l'heure. Donc, Valérie, je te fais un gros coucou de vive voix. Mon petit Benjamin, mon gendarme préféré, je te fais un gros coucou et un gros bisou également. Marie-Madeleine, bah écoute, je t'ai fait un petit bonsoir tout à l'heure par écrit, donc j'en profite pour te le faire de vive voix. Bonsoir Marie-Madeleine, merci d'être présente. Benjamin encore qui me refait plein de bisous, incroyable. Fabien Bellec, mon frère, qui me fait hello, hello, et qui me dit à quelqu'un, oui à quelqu'un. Mélanie qui qui me laisse un emoji, je crois, ou un émoticône de quelqu'un qui est effrayé. Mais t'inquiète pas. On est là pour te protéger. Elodie qui arrive dans suspense. Alors j'ai vu son message arriver tout à l'heure. Et en fait, non, Elodie, tu es... Alors déjà, bonjour, excuse-moi. Mais tu es arrivé après le plus gros du suspense. Donc je t'encourage à te taper le replay. Parce que tu as loupé le plus suspensant. C'est pas français, mais c'est un mot qui me plaît. Allez, d'ici demain, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Il fait pas très beau par chez moi le soir, ce soir, dans le sud du Cher, le temps est un peu gris. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est le couvre-feu par chez nous. De votre côté, restez chez vous également. Et puis, je vous embrasse tous, je vous dis bye, et à demain !